Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, nous allons rencontrer Alioune Tine, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains au Mali. Au micro de Mamedia Radiop de Radio Mikado, il exprime sa vive préoccupation concernant la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans le nord et le centre du Mali après avoir effectué récemment une visite de 12 jours dans le pays. Au cours de sa visite, Alioune Tine a visité les régions de Bamako, de Gao et de Kidal. Il a rencontré des membres du gouvernement malien, de l'opposition politique, de la communauté internationale, des forces armées maliennes et des groupes rebelles, ainsi que des représentants de la société civile et des chefs traditionnels. Même s'il se félicite de la réussite de la tenue des élections et des efforts de dialogue politique, il conclut de toutes ces discussions et rencontres qu'il règne un véritable climat de peur et d'impunité dans le pays, avec un impact réel sur la vie des populations.
La situation des droits de l'homme au Mali, comme la situation sécuritaire, est caractérisée franchement par une dégradation générale, surtout au nord et au sud. Dégradation de la situation sécuritaire, la situation humanitaire. Il y a également un climat généralisé d'impunité, surtout avec la grève, bien sûr, des magistrats. Mais surtout aussi, il y a le fait que la justice a des dysfonctionnements chroniques au centre et au nord. Sinon même, elle est inexistante sur place. Donc tout cela fait que aujourd'hui, on assiste au nord comme au centre à un véritable climat de peur qui règne du fait de l'insécurité, du fait également de la déprotection des populations civiles qui sont hantées par les violences quotidiennes. Et ces violences se manifestent surtout par les enlèvements, ça se manifeste par les violences de toute nature, les assassinats, les règlements de compte, les poses des engins explosifs, des attaques de convois humanitaires.
Est-ce que vous voulez dire qu'entre votre première visite et celle-ci, les choses se sont détériorées, il n'y a pas eu d'amélioration?
Non, il n'y a pas eu d'amélioration, très sincèrement. Et il y a un phénomène tout à fait nouveau que nous avons découvert, surtout au nord, c'est les viols. Les violences sexuelles, violences basées sur le genre, qui n'épargnent même pas aujourd'hui les jeunes filles, les enfants. C'est quelque chose de tout à fait grave, d'inadmissible, d'inacceptable. Vraiment quelque chose auquel il faut mettre un terme très rapidement. Je pense que nous en avons parlé aux différentes autorités que nous avons rencontrées, qui elles aussi sont vraiment conscientes de la situation. Ce qui nous satisfait, c'est que les autorités maliennes ne sont pas dans le déni et envisage effectivement des mesures très fortes pour adresser cette situation de violence au nord comme au centre.
Alors, Monsieur Tine, vous avez au cours de votre visite rencontré les sociétés civiles de Gao, celles de Kidal également, ainsi que certains groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Est-ce que le processus de paix avance à souhait pour vous?
Écoutez, il y a des choses très positives dans le processus de paix, c'est la désignation des autorités intérimaires, c'est très clair. Dans certaines régions, les deux nouvelles régions. La nomination aussi des autorités des cercles. Mais en fait, sur le terrain, les gens ne sont pas sur place. Si vous allez à Kidal, même si le gouverneur, s'il est là, s'il est omniprésent, on peut s'interroger sur son autorité réelle, sur la situation. De la même manière, quand on a été aussi à Gao, le gouverneur était là. Bon, il n'était pas présent sur le terrain, mais nous avons été reçus par son adjoint qui était là, qui nous a beaucoup parlé de la situation. Nous avons rencontré également la société civile, je peux dire la société civile moderne, la jeunesse, les jeunes, nous les avons rencontrés. Nous avons rencontré également les femmes victimes, et nous avons rencontré aussi les sages à Gao. Donc, l'information à Gao, c'est pratiquement la même. Aujourd'hui, à Gao, l'insécurité, elle est permanente. Je pense que c'est le problème numéro un dont souffrent les populations. Et notre point de vue est que aujourd'hui, la communauté internationale doit renforcer son engagement aux côtés du gouvernement malien. Aujourd'hui, le Mali a besoin, pour des raisons de sécurité pour le Mali et pour la sous-région, vraiment devoir renforcer ses capacités à vraiment protéger les biens et les personnes un peu partout. Vraiment, ça fait partie quand même des plaidoyers que nous voudrions que ça soit entendu par la communauté africaine, par la communauté internationale, et également pour attirer l'attention sur le fait que, vous savez, les djihadistes, ils n'ont pas de frontières. Ils avancent, ils sont de plus en plus forts, et chaque fois qu'il y a effectivement des poches où il y a des faiblesses, des poche où l'État n'est pas très fort, effectivement, ils avancent.
Alors, à vous entendre, M. Tin, beaucoup de choses sont bloquées, il y a des menaces. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même de positif que vous avez observé durant cette visite? Je pense notamment au centre du Mali où de gros efforts sont faits pour apaiser les tensions intercommunautaires entre les Dogons et les Peuls. Le gouvernement s'est engagé à beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux?
Écoutez, moi, je salue surtout le courage et les efforts du Premier ministre malien. Quand on est arrivé, nous avons quand même vu qu'il était au centre du pays au moment de la rentrée scolaire. Parce qu'également, vous savez, il y a pratiquement 132 000 élèves qui sont privés de droits fondamentaux. Que ça soit adressé au centre, alors qu'on sait effectivement que vraiment, ce n'est pas là où il y a le plus de sécurité. Et également adresser les conflits intercommunautaires. Donc, je suis au courant aujourd'hui, après avoir parlé avec le haut représentant, que les dialogues en ce moment ont commencé entre les Dogons et les Peuls, ce qui est une excellente chose. Donc, nous encourageons toujours le gouvernement à aller dans ce sens.
Alors parlons maintenant de sécurité, d'opérations antiterroristes, Monsieur Tin. La force du G5 Sahel, la force conjointe, a prévu 3 nouvelles opérations au mois d'octobre. C'est ce qu'a annoncé la ministre française de la Défense. Est-ce que la question des droits de l'homme aujourd'hui est suffisamment intégrée à ces opérations de lutte antiterroriste?
Je sais effectivement que la préoccupation relative aux droits humains est intégrée. Vraiment, il faut lutter contre le terrorisme, c'est tout à fait normal. Ce serait même, je dirais, irresponsable de ne pas prendre les mesures les plus fermes contre le terrorisme. Mais également, il faut le faire dans le respect des obligations internationales en matière de droits humains du Mali. Il faut le faire dans le respect également du droit humanitaire international. Et il me semble que ces aspects doivent quand même être toujours pris en considération par le commandement à la fois de Barkhane, des femmes, et surtout et fondamentalement de G5 Sahel.
Justement, quel rôle pourrait jouer la MINUSMA dans l'accompagnement de ces opérations et à ce niveau-là, à ce niveau des droits de l'homme?
Je sais que la MINUSMA fait beaucoup d'efforts. Ah oui, beaucoup d'efforts de formation des groupes déjà. Parce que moi, j'ai été témoin quand j'ai été à Kidal, où effectivement, il y avait une formation, une sensibilisation de groupes armés en matière de droits humains. Moi-même, quand j'ai rencontré ces groupes armés, bon, je leur ai dit, mais est-ce qu'effectivement, ils prennent en compte dans tout ce qu'ils font les droits de l'homme? C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu toutes les informations concernant effectivement la collaboration de la CEMA et également de la division des droits de l'homme basée effectivement à Kidal. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'ai été très rassuré quand j'ai vu effectivement que c'était pris en considération. Donc, que ce soit les groupes armés, que ce soit également au G5 Sahel, cela existe. Le problème, c'est le problème effectivement du respect des normes. La formation même, nous sommes au courant que ça continue. C'est quand même un aspect très important pour la communauté internationale, pour effectivement l'ensemble des partenaires qui soutiennent également le Mali. Et le G5 Sahel a intérêt, de notre point de vue, à les respecter. Quand nous les avons rencontrés à Mopti, le jour où on les a rencontrés à Mopti, c'est le lendemain que les attaques ont eu lieu dans le commandement. Et là, on a eu quand même une longue discussion avec le commandement. Et sincèrement, ils ont compris. Mais le travail continue, ce n'est pas en un seul jour. Je sais que la MINUSMA continue ses efforts pour effectivement sensibiliser davantage pour que les militaires respectent vraiment les droits humains, le droit humanitaire international.
Alors justement, parlons de ces militaires. Il y a moins d'accusations aujourd'hui, en tout cas d'allégations de violation des droits de l'homme de la part de l'armée malienne, souvent pointée. Confirmez-vous cet état de fait, d'autant que dans le dernier rapport du secrétaire général, M. Guterres a insisté pour que le gouvernement prenne des poursuites envers les auteurs du crime?
Vous savez, quand vous avez des crimes internationaux, ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Ce sont des crimes qui ne doivent pas rester dans l'impunité. Et il faut effectivement que nos États fassent la différence avec les groupes armés. Il faut que les États sachent qu'en fait, ils ont signé et ratifié des conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Et ces obligations, ils doivent absolument les respecter. Et donc, sensibiliser davantage toutes les armées. Ce n'est pas seulement que les armées, c'est les armées africaines. Hein. Nous savons que le terrain, c'est très difficile. Et peut-être même quand des rapports vont sortir, vous allez savoir que dans tous les groupes, il y a eu effectivement des dérives, des dérapages, et également ce qu'on appelle aussi les effets pervers.
Mais
donc,
il y
les
en a
dégâts
moins.
Collatéraux.
Donc. Mais il y en a moins en tout cas aujourd'hui. Hein. Il y a moins d'allégations. Plusieurs ONG et organisations ont souvent alerté, mais aujourd'hui, il semble qu'il y ait moins de violations des droits de l'homme.
Oui, ça veut dire effectivement que le travail effectué au sein effectivement de ces armées et puis les alertes et puis les dénonciations de ces violations font effectivement que peut-être que maintenant il y a un impact. Mais non, on s'en réjouit. Mais il faut être intraitable sur la question de l'impunité de ces actes. Et c'est ça qui va faire la crédibilité du gouvernement malien. C'est ça qui va faire la crédibilité également de l'état de droit au Mali. Et c'est ça qui va faire effectivement aussi que la communauté internationale se dise bon, tiens, l'état malien, Barkhane, moi je ne fais pas la différence entre Barkhane, Fama et également le G5. Hein, c'est toutes des armées qui sont dans des situations souvent très difficiles. Mais cela dit, il faut que ces armées respectent les droits fondamentaux et qui respectent également le droit international humanitaire.
Alioune, quelles sont les grandes lignes que vous ferez ressortir sur le Mali dans votre rapport au Conseil des droits de l'homme en février 2019?
Bon, écoutez, ça fait un peu une deuxième visite, c'est trop dire.
C'est beaucoup
dire. Nous allons beaucoup surveiller vraiment l'amélioration de la situation de la sécurité. S'il n'y a pas une amélioration de la situation de la sécurité, il n'y aura pas d'amélioration vraiment de la situation des droits de l'homme. Donc, les deux sont liés. Surveiller également la présence de l'État partout. C'est très important. Quand l'État est absent, il est évident que les groupes et toutes les forces obscures sortent et ça également, ça crée des problèmes. Donc, la situation également de ce qu'on appelle les conflits intercommunautaires. Parce que quand même, tout ce qui se passe, ce sont des ferments extrêmement dangereux pour le vivre ensemble. Des ferments dangereux également pour ce qu'on appelle la cohésion sociale. Donc, c'est une question qu'il faut adresser. Parce que aussi, ce conflit, ce n'est pas seulement les armes. Ce n'est pas seulement les Kalachnikovs, parce que le conflit est dans la tête. La paix aussi, on perçoit ça dans la tête. Or, quand moi je regarde, par exemple, aujourd'hui la télévision malienne, vous savez, les campagnes de paix, il faut les faire avec beaucoup d'agressivité. Il n'y a absolument rien sur les campagnes concernant la paix. Et de mon point de vue aussi, la société civile, elle est presque muette. Je pense que par rapport à une situation comme ça, qui présente énormément de défis. Il faut renforcer la société civile, renforcer ses capacités institutionnelles, structurelles, financières, bien les former en matière de campagne et puis faire en sorte que les sociétés civiles qu'ils se rassemblent. Pour dire que la société civile, elle n'est pas politique. La société civile, elle est là pour faire de la régulation pour la paix, pour faire la campagne pour la paix et qu'ils unissent leurs forces. C'est très important. Que ce soit la société civile, moderne, religieuse, traditionnelle, tous se donnent la main pour dire, écoutez, nous allons faire en sorte que ces conflits intercommunautaires, on y mette un terme. Et qu'effectivement, on renforce le vivre ensemble, on renforce le concept de citoyenneté malienne. Et ça, c'est fondamental.
Voilà, fin d'escale avec Alioune au micro de Mamé Diarra Diop de Radio Mikado sur la situation au Mali, un magazine conçu, produit et présenté par Jérôme Bernard avec la collaboration de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et via les médias sociaux nos magazines hebdomadaires mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.